J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Merci encore de votre fidélité à Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Capi, la fréquence de la paix. Toutes les sociétés minières installées en République démocratique du Congo sont appelées à rapatrier 40% de leurs recettes d'exportation en devise au pays. Cette annonce a été faite par le ministre de l'économie à la clôture de la semaine minière tenue à Lubumbashi. Selon le ministre d'État et ministre de l'économie, Joseph Kapika, cette mesure vise à arrêter la dégradation de l'économie du pays. Alors comment réagissez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 49 69 ou bien au 09 97 06 63 80 pour votre intervention en direct. Notez que ce débat se tient également sur notre page Facebook. Vous êtes nombreux à avoir déjà consulté cette page, au moins 4750. Vous l'avez consulté et vous avez commenté au même moment. Pierrot et la Meji est au standard et à la réalisation de cette émission. Dieudonné Nyangassa à la mise en onde de ce programme, supervisé par Martin Sebou Djangwe. Cette émission est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Dans son message, un internaute a dit « Nous avons toujours fustigé la croissance appauvrissante à laquelle nous faisons face depuis plusieurs années, alors que nous assistons effectivement à un accroissement du PIB. Les conditions de vie de la population ne suivent pas. Ce paradoxe se justifie du fait que les exploitants ont l'habitude de transformer la plus grosse partie de leurs dividendes et même du coût des capitales en dehors de l'espace économique congolais. Il était temps que le gouvernement se ressaisisse pour corriger ces déséquilibres de la balance commerciale qui met à mal la monnaie nationale et heurte toute ambition de développement. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Capi. Séraphin, vous êtes le premier auditeur qui va ouvrir les débats. Vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, 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 Radio Capi.
Alors, Séraphin, vous êtes avec nous. Comment vous débattez avec les autres, mais tout en sortant les opportunités de cette mesure et également leurs menaces. Au nombre des opportunités, certains disent que voilà, ça pourrait nous amener ipso facto à la révision du contrat minier pour aider tant soit peu à assainir ces milieux et aussi à permettre la canalisation des recettes pour qu'il y ait un impact sur l'économie. Mais au nombre de menaces, il y a certaines personnes qui estiment, ou une opinion qui estime que, étant donné que nous sommes dans un régime, sous un régime déclaratif de notre économie, il y aura des déclarations opaques et aussi ça pourra occasionner la fraude et pourquoi pas le coulage des recettes dès lors qu'il n'y aura pas de mécanismes sur des protections des exploitants. Est-ce que vous partagez cet avis?
Merci, monsieur, juste de m'avoir accordé la parole. En suivant la déclaration du ministre de l'économie nationale, je constate qu'il y a un problème sérieux des réserves au niveau de notre banque. Ce que vous devez d'abord savoir, ce que la population d'Atire doit savoir, c'est que la monnaie a un seul appui, un seul support pour exister. C'est la confiance de ceux qui l'utilisent. C'est ça l'appui, c'est ça le support même de la monnaie. Est-ce qu'aujourd'hui, notre monnaie a-t-elle la confiance de la population congolaise qui l'utilise? Je dis pratiquement non. Pourquoi non? Parce que notre monnaie a perdu ses trois fonctions. La valeur, trois ses fonctions. D'abord, la valeur, la réserve de valeur, l'intermédiaire de l'échange, c'est ce qui permet à ce que la population puisse retirer la confiance à notre monnaie. Mais dire que les entreprises minières puissent rapatrier 40% de leur exportation, moi je me demande est-ce que c'est une mesure qui mettra fin à cette dépréciation? Je dis absolument non. parce que nul n'ignore que ces entreprises minières qui exportent nos minerais à l'étranger rapatrient toujours leurs recettes pour acheter encore une fois de plus la monnaie, parce qu'on ne va pas à l'extérieur, on ne va pas en francs congolais, on va toujours en devises étrangères, et elles ramènent toujours leurs devises au niveau de notre pays pour les rachats, pour de nouveaux rachats. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de la dépréciation. Le problème qui va résoudre le problème de la dépréciation, il y a certains préalables. D'abord, l'introduction dans la chaîne de dépenses. Donc, il faut qu'on contrôle sérieusement la chaîne de dépenses. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Il y a des ordonnancements par-ci, par-là, que ce soit au niveau du ministère des Finances, que ce soit au niveau de la primature. Donc, on ne contrôle pas. Il n'y a pas une sérieuse contrôle dans la chaîne de dépenses. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la politique monétaire rassurante. La Banque centrale doit définir une politique monétaire rassurante pour permettre à ce que notre monnaie puisse recouvrir ces trois fonctions que je dis à citer. Et je pense qu'avec ça, ça pouvait quand même donner des solutions sur la dépression que nous sommes en train de connaître. Mais si nous sommes en train de connaître, si le ministre de l'économie a dit cela, je pense que c'est un problème de réserve, parce que si la banque avait la réserve, on devait procéder à la problématique ou à la stratégie d'adjudication, c'est-à-dire lancer le devise de dollars sur le marché afin que de l'acheter sur le franc congolais pour la diminution. Mais si on constate qu'il y a une très mauvaise politique, que ce soit de la chaîne de dépenses, que ce soit
oui,
la politique
monétaire. Oui, c'est rappel. Avant que vous poursuivez avec ces préalables, vous êtes sans ignorer que la Banque centrale a à un certain moment connu d'énormes difficultés et surtout en réserve. En devise. Ce qui fait que au niveau de la barre même de 1 milliard de dollars, la banque s'est retrouvée en dessous de cette barre psychologique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette décision prise, ça pourrait, en tout cas, rejoindre quelques décisions prises par la Banque centrale pour réguler ou encore aider tant soit peu à redorer l'image qui est ternie de notre économie. Est-ce que vous n'estimez pas que c'est une très bonne décision pour booster encore le niveau de la réserve en devise?
En fait, ce n'est pas une décision qui va booster. Par contre, j'ai suivi hier le communiqué de la primature qui a tweeté, soit disant qu'ils ont réussi à, ils vont recevoir d'un moment à l'autre 1 milliard de dollars à provenance d'une banque de risque. Là, ça pouvait quand même donner de la solution. Mais en rapatriant le 40% d'exportation, c'est ce que toujours les entreprises minières ont toujours fait. Ils rapatrient toujours les recettes au niveau du pays parce qu'ils ne vont pas à l'extérieur en franc congolais, non.
Et qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous craignez? Quelles peuvent être des menaces de cette mesure?
Donc, en fait, dans cette mesure, il n'y a pas assez de menaces, mais on doit toujours être dans le statu quo. Parce que même si aujourd'hui les entreprises parvenaient à rapatrier les 40% de leurs recettes à l'exportation, je crois qu'on va demeurer toujours dans la même situation. Moi, je pense que la meilleure situation, c'est celle que la primature a dû publier. Comme ils auront une aide d'un milliard de dollars de la part d'une banque russe, ça pouvait quand même booster l'économie de gros, ça pouvait stabiliser aussi la monnaie de pression que sont en train de connaître aujourd'hui. Parce que les problèmes qui se posent, c'est le problème des réserves. C'est le problème de réserve au niveau de la Banque centrale. Et si aujourd'hui la Banque centrale trouvait une réserve assez conséquente et pour permettre à faire cette stratégie d'adjudication, ça peut quand même donner de l'espoir encore une fois de plus.
Merci beaucoup, Séraphin. Vous pensez que les problèmes de réserve en devise au niveau de la Banque centrale, qui est plus sérieux, une fois résolu, je crois que ça pourrait aider à résoudre cette situation de la dégradation de l'économie du pays, comme l'a dit le ministre d'État et ministre de l'économie, Joseph Kapika, en motivant au fait cette mesure prise par le gouvernement congolais. Alors, donc, vous estimez que déjà les sociétés minières travaillent dans ce sens-là, de rapatrier leurs recettes au niveau, quelques pourcentages au niveau de l'État, et cela n'arrive toujours pas à être bien canalisé. Merci beaucoup, Séraphin. On va prendre Dieudonné qui est à Lubumbashi, mais tout en vous rappelant, chers auditeurs, vous qui nous rejoignez, que vous devez également, pour participer en direct, composer les 09 97 06 49 69 ou encore les 09 97 06 63 80 pour votre intervention en direct. Dieudonné, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, JR. J'interviens depuis Lubumbashi. J'aimerais réagir par rapport à la décision prise par le ministre de l'économie. Moi, je trouve cette décision, bien sûr, salutaire, dans le sens qu'il est des principes économiques indéniables. Et quand il y a rapatriement des devises, cela impacterait positivement sur notre économie, en ce sens que ça aiderait d'un support à notre monnaie nationale. Mais cette approche est insuffisante dans le sens que le rapatriement des devises par les sociétés minières ne réussira pas à lui seul à sauver cette dégradation de notre économie. Mais faudrait-il encore diversifier, ce que j'ai même écrit dans mon intervention à la page Facebook, il faudrait diversifier notre économie, il faut plus produire afin d'exporter pour amener des devises. Notre économie est extrêmement extravertie, vous connaissez hier. On peut que nous importons tout. Donc, alors, de là, le secteur des mines n'est pas le seul secteur qui puisse garantir la sécurisation de notre économie. Mais faudrait-il diversifier notre économie? Par exemple, nous avons le secteur agricole, nous avons beaucoup de secteurs qui peuvent garantir notre économie. Ce n'est pas seulement le rapatriement ou l'importation de devises qui peut sauvegarder ou remédier cette dégradation que nous connaissons de notre économie hier.
Merci beaucoup Dieudonné, vous saluez cette décision, encore que vous insistez que ce soit moins explicable par rapport à ceux qui l'ont prise. Bien sûr, vous insistez qu'on doit s'accorder que quand il y a importation ou rapatriement de dollars, ça impacte positivement sur notre économie. C'est un principe économique que vous soulignez, donc indéniable, que vous estimez aussi être plus important si jamais il est appliqué. Il faut ajouter les vraies cures qui résident d'une part de la diversification de notre économie. C'est cela que vous avez annoncé. Merci beaucoup à Dieudonné d'avoir contribué dans cette émission. Et là, je relis encore le message d'Alain Bolodjoa qui dit « Nous avons toujours fustigé la croissance appauvrissante à laquelle nous faisons face depuis plusieurs années. Alors que nous assistons effectivement à un accroissement du PIB, les conditions de vie de la population ne suivent pas. Ce paradoxe se justifie du fait que les exploitants ont l'habitude de transférer la plus grosse partie de leurs dividendes et même du coût de capital en dehors de l'espace économique congolais. Il est temps que le gouvernement se ressaisisse pour corriger ce déséquilibre de la balance commerciale qui met à mal la monnaie nationale et heurte toute ambition de développement. 09 97 06 49 69 ou encore le 09 97 06 63 80.
Parole aux auditeurs.
Nous recevons dans ce studio Jérôme Sekana, qui est journaliste et qui suit de près, en tout cas, l'actualité économique et surtout dans les domaines de développement, notamment dans les secteurs miniers. Jérôme, une fois encore, bonjour.
Bonjour, JR.
Alors, Jérôme, d'entrée des jeux, c'est vrai, on va balayer des moments les interventions des uns et des autres. Est-ce que la décision du gouvernement, la mesure prise par le gouvernement, par le biais du ministère de l'économie, ne s'agit-il pas là des obligations supplémentaires extra-contractuelles, en nous référant bien entendu du contrat minier en vigueur imposé aux sociétés minières? Est-ce que ce n'est pas là des obligations supplémentaires?
Non. Le ministre n'a pas décidé, mais le ministre a rappelé la loi. Si vous lisez l'article 269 du code minier, et si vous lisez encore l'article 271 du code minier, ces deux articles sont précis. Qu'est-ce que ces deux articles disent? Ces deux articles obligent les sociétés minières à pouvoir garder dans leurs comptes à l'étranger, c'est-à-dire après vente des minerais que ces sociétés exploitent en République démocratique du Congo, les produits des ventes, 60% des produits des ventes doivent être logés dans leurs comptes en dehors du pays. Et 40% des produits des ventes doivent être rapatriés en intégralité et en liquidité. C'est pour venir soutenir l'offre en devise. Vous êtes sans oublier que notre croissance économique est tiré en grande partie par les secteurs extractifs et principalement les mines et les produits pétroliers. Donc, c'est une exigence du législateur. Le ministre de l'économie n'a pas inventé la roue. Mais nous avons des faiblesses en appliquant ces mesures-là. Je dois d'abord vous préciser que les sociétés minières ne rapatrient pas en intégralité les 40%, ce qui est une faille. Les sociétés minières rapatrient à leur gré une partie des 40%, parce que les 60% qu'elles doivent garder en dehors du territoire national doivent servir pour l'achat, par exemple, des engins et autres matériaux qui peuvent entrer dans la production de minerais. Et les 40% doivent être rapatriés, c'est pour le fonctionnement, bien sûr, et payer les taxes, et ainsi de suite. Mais ce qu'on constate, c'est que ces sociétés ne rapatrient pas la totalité, mais rapatrient peut-être 10% pour quelques-unes, et 30% pour les autres, et jamais 40%. Ce qui crée un déficit dans l'offre en devise. Quel est le problème que nous avons aujourd'hui avec la surchauffe que nous observons? C'est qu'il y a une surliquidité de masse monétaire en francs congolais en circulation face à une offre en devise qui est très maigre par rapport à la masse monétaire en francs en circulation.
Le principe de l'offre et la demande.
Le principe de l'offre et de la demande. Mm-hmm. Et vous savez que nous, je dois saluer Dieudonné qui venait de dire que notre économie est extravertie. Nous importons, je vous donne un chiffre, pour vivre, pour acheter à manger, 1 milliard 150 millions de dollars chaque année pour importer les vivres. Et là, on n'achète pas avec les francs congolais. Tout comme les sociétés minières, tout comme d'autres commerçants qui achètent d'autres produits. Donc, pour acheter à l'extérieur, les opérateurs économiques, tout comme les miniers, ont besoin des devises. Mais le problème, c'est que ces miniers-là ne respectent pas la loi. Elles ne rapatrient pas conformément à l'article 269 et 271
la totalité des 40%.
Et quand elles arrivent sur le marché, elles cherchent encore les devises avec les autres sur le même marché.
Est-ce que ce n'est pas dû à la défaillance de l'application de ces principes? Bon, je ne sais pas si c'est à la défaillance, mais le fait que nous sommes une économie déclarative.
Non, il en faut.
Parce que ils ne payent que ce qu'ils déclarent.
La défaillance ici est à imputer à la Banque centrale. Parce que l'article 271 demande à la Banque centrale, autorise la Banque centrale d'aller même vérifier les mouvements des comptes des 60% des produits de vente qui sont logés dans les banques en dehors du pays. Et parce que ces sociétés minières...
Et faire des calculs par rapport à...
Quand on vérifie les mouvements des comptes, c'est qu'on doit poser des questions. Qu'est-ce que vous avez fait avec
ces pays ou ceux-là? Et qui représentent
les 40%. Voilà. Est-ce que vous avez rapatrié en intégralité? Mais la Banque centrale ne fait pas correctement ce travail-là. Et puis, la Banque centrale doit également reçoit chaque mois, tout comme la division des mines, vous comprenez, reçoit chaque mois, tout comme la division des mines, donc le ministère des mines, le rapport sur ces deux comptes-là. Le compte où on loge les 60% et les comptes qui concerne le rapatriement des 40%. Donc la faillite ici,
le premier défaillant, c'est la banque centrale.
Elle est à la base de cette situation.
Alors deuxièmement, quelles sont les opportunités que nous pouvons dégager dans cette mesure?
Les opportunités, d'abord, nous devons apprendre.
Est-ce qu'il y a nécessité de révision?
Non. D'ailleurs, le code minier est sous examen au Parlement.
Le Parlement, oui.
Il faut que nous ouvrions l'œil et le bon parce qu'il est le code minier le plus dupe du monde. Il accorde des exonérations à l'import comme à l'export et nous avons toujours dénoncé ça et ce n'est pas normal. D'ailleurs, il faut rappeler les contextes dans lesquels ce code minier a été voté en 2002. Et le pays était déchiré par la guerre, on était presque en position de faiblesse, le gouvernement avait négocié ses codes à genoux à terre. Et il y a la Banque mondiale qui est venue, bien sûr que les multinationales étaient derrière, et on a presque bradé l'exploitation minière. Et c'est un pillage organisé de nos ressources minières, et je vais le démontrer. Et nous devons respecter ce que dit le code minier. Le législateur a donné des instructions claires et précises que les sociétés minières ne respectent pas à la lettre, mais également il y a une défaillance de notre administration, en commençant par la Banque centrale du Congo et le gouvernement à travers la division des mines qui ne font pas correctement leur travail. Donc, il faut nécessairement appliquer ça dans tout ça. Pourquoi? Parce que Si l'offre en devise est alimentée, est approvisionnée, nous allons essayer un peu de corriger les déséquilibres de notre balance des paiements. Mais il n'y a pas que ça. Mmh. Il y a aussi le fait que nos banques centrales, et une fois de plus, l'administration congolaise est mise sur le banc des accusés, il y a ce qu'on appelle des licences IB. C'est-à-dire des licences des importations des biens. Mmh. Vous savez que au-delà, au-dessus des 10 000 dollars, vous ne pouvez pas sortir avec ça sans que vous n'ayez l'autorisation de la Banque centrale. Mmh. Cela veut dire que tous les opérateurs économiques qui opèrent en République démocratique du Congo, lorsqu'ils commandent le matériel à l'extérieur, ils doivent se munir d'une licence qui délivre les banques commerciales.
Tout à fait.
Et on dit, quelqu'un dit, bon, moi j'ai besoin d'acheter ceci ou cela, 100 millions de dollars. Mmh. La banque donne la licence, c'est ce qu'on appelle la licence IB. Oui. L'opérateur économique est autorisé à sortir avec les 100 millions de dollars. Mais qu'est-ce qu'on constate? On n'apure pas ces licences-là. C'est-à-dire, quelqu'un peut dire que je suis sorti pour acheter les marchandises de 100 millions de dollars. Il peut acheter même pour 20 000, même pour 30 000. On ne se pose pas la question pour savoir les 60 millions, les 60 millions d'autres là qui sont restés. On en a fait quoi? Et c'est ça qui fait que il y a des arriérés, on cumule, il n'y a pas un suivi et ça fait désordre.
Alors, on est en train de... Juste avant de revenir, de rouvrir encore le standard, mais il y a quand même une question de curiosité. Aujourd'hui, toutes ces entreprises minières fonctionnent-elles sous un régime de joint venture ou carrément ils sont pratiquement à part entière des sociétés à personnalité limitée ou encore des SARL?
Écoutez, cette mesure n'impose pas des discriminations. Mm-hmm. Toute société minière qui exporte le
même
minerai...
Même ceux qui sont en joint venture,
bien sûr que oui.
Des sessions.
Et toute société minière qui exporte le minerai et qui les vend en dehors du territoire national a l'obligation, conformément à l'article 269, de rapatrier 40% et a l'obligation de justifier les 60% des fruits des ventes que cette société loge dans des banques à l'extérieur, et la banque centrale a l'obligation de contrôler les mouvements des comptes.
Voilà, merci beaucoup Jérôme Sekana. On reviendra d'ailleurs à vous pour, au fait, vous reposer encore la question sur les exportations, même des minerais, des dérivés des minerais. Mmh. Et là encore, c'est un débat et ça rentre encore dans les cadres de coulage des recettes et tant d'autres. 09 97 06 49 69 ou encore le 09 97 06 63 80 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook et d'interagir sur les différents réseaux sociaux où c'est, tiens d'ailleurs, le même débat en direct. Ingénieur Valérie, vous êtes en ligne, gardez la ligne. Et Rudy à Lubumbashi, nous accorderons la parole d'un moment à l'autre.
À la découverte des merveilles du Congo. Le beau Congo, c'est le beau visage du Congo mis en avant. Pamela Amunazo et Jean-Didier Ogobani vous amènent dans des merveilleux coins et recoins du pays. Tous les samedis à 7h30 et 15h10, le jeudi à 15h30.
Parole aux auditeurs.
Une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Ingénieur Valérie, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour JR, bonjour à l'invité.
Quelle est votre contribution? Est-ce que vous pensez comme les autres qu'il y a beaucoup plus d'opportunités à saisir et également quelques menaces de cette mesure?
Tout à fait. Je dois dire que la mesure est salutaire, donc cette mesure qui porte sur les rappels. Parce que lorsque la loi est à l'avantage du peuple, il ne faudrait pas que les autres marchent dessus. Au contraire, il va falloir que de temps à autre, on puisse rappeler les dispositions. Mais au-delà de cela, je voudrais que le ministre, j'estime que qu'il n'a pas seulement que rappeler, je pense qu'il doit avoir aussi pris des mesures cette fois-ci pour contraindre et la Banque centrale et le ministère des Mines, c'est-à-dire pas contraindre le ministère des Mines, d'autant plus que les ministres des Mines, ce sont collègues, mais je pense que le ministre des Mines a été aussi associé pour que les 60% qui restent à l'étranger soient aussi bien contrôlé.
Alors je vous informe déjà, Général Valéry, hier nous avons eu un entretien avec son équipe de communication, donc l'équipe du ministre, pour cette question, et il nous a laissé entendre qu'effectivement, il décline toute responsabilité. Maintenant, c'est la responsabilité de la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui doit faire le suivi et les finances.
Ok, alors, puisque c'est de la responsabilité...
Allez-y, Général Valéry.
Ok, puisque c'est la responsabilité de la Banque centrale, je pense que le gouvernement aura aussi des dispositions à prendre afin que la Banque centrale ne brade pas son autonomie. Parce qu'autrefois, elle relevait du ministère des Finances. Le ministère des Finances pouvait bien peser là-dessus. Mais maintenant qu'elle est autonome, j'estime que le gouvernement doit prendre aussi toutes les dispositions afin de la contraindre de travailler pour le rapatriement de ces 40%. Mais avant toute chose, j'aimerais aussi réagir vis-à-vis de mes prédécesseurs. Il y en a qui ont parlé de la croissance appauvrissante. Mmh. Je ne sais pas. D'après mes recherches, la croissance que nous avons connue n'a pas été appauvrissante. Mais c'est nous-mêmes qui n'avons pas exploité des politiques économiques devant convertir cette croissance en développement. Parce que la croissance est dite appauvrissante lorsque d'un côté nous avons la croissance et de l'autre il y a ce que je pourrais appeler une malchance de l'amenuisement du terme de l'échange. C'est-à-dire s'il y a augmentation de l'indice des prix à l'importation. Or, nous n'avons pas connu ces cas. Il n'y a pas eu une augmentation de l'indice des prix à l'importation. Par conséquent, la croissance n'a pas été appauvrissante. Je préfère encore bien l'expliquer. Donc il y a ceci. Si l'on a produit, il y a une croissance, d'une part, et que d'autre part, le pays est tombé, par exemple, victime d'une augmentation des prix. Donc c'est ça ce que nous disons à la variation, donc l'indice des prix à l'importation. À ce moment, la croissance qui est produite sera consommée par l'importation. Mais ici, cela n'a pas été le cas. Les produits importés n'ont pas connu une hausse des prix. C'est nous-mêmes qui voulons importer ce que nous refusons de produire. Là, la croissance n'est pas du point de vue économique appauvrissante, mais c'est nous-mêmes qui ne jouissons pas de notre propre croissance faute des politiques économiques. Alors, maintenant, moi, je continue toujours à regretter pourquoi, avec la création de ces mining, on a donné beaucoup de faveurs aux étrangers. D'autant plus qu'aujourd'hui, toutes ces recettes appartiennent d'abord aux propriétaires des entreprises qui ne sont pas l'État, disons, qui n'est pas l'État congolais.
Oui, mais ingénieur Valéry, en croire le propos de notre invité tout à l'heure, il y a possibilité de vérifier, ce que revient à l'État, notamment en contrôlant, donc les travaux que devait faire la banque centrale, de contrôler au niveau de d'autres banques où sont logés. Les comptes de certains mining, il pourrait se faire une idée très claire sur la totalité des 40% qui devaient être rapatriés.
Là, c'était le premier.
Il y a une défaillance de ce côté-là, il y a un travail qui n'est pas fait.
C'est normal.
Oui.
Oui. Là, j'ai déjà réagi que la mesure du gouvernement est correcte et la Banque centrale doit faire son travail. Et au besoin, on doit aussi lui demander une explication. La Banque centrale ne peut pas faillir à sa mission pendant plusieurs années et on la laisse comme ça. On doit quand même lui coller une demande d'explication. Elle doit expliquer. Il faudrait même que les députés saisissent les dossiers pour que la Banque centrale s'explique. Parce qu'elle n'est pas, elle ne doit pas travailler à son gré. Elle est soumise aux lois du pays. Donc, à mon sens, la Banque centrale doit s'expliquer. Mais je disais que bien avant cela, aujourd'hui, même ces 40% que nous allons contrôler, ce sont les 40% des propriétaires des entreprises. Mmh. Aujourd'hui, que nous avons beaucoup plus privatisé, l'État a une faible part. Or, ces recettes pouvaient aussi être automatiquement les recettes de l'État. Mais aujourd'hui, c'est une part...
Oui, c'est la question que nous avons débattue avec notre invité sur les joint ventures et d'autres
moi,
sociétés.
Moi, je crois qu'avec cette révision du code minier, nous pouvons aussi nous arranger pour que l'État augmente aussi sa participation dans toutes ces entreprises minières.
Et diminuer de moins en moins donc le
secteur clé.
Le contrat de cession, oui. Merci beaucoup, ingénieur Valéry. On comprend bien votre souci. On va prendre Rudy qui est à Lubumbashi. Rudy, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Rudy Tabano depuis Lubumbashi.
Oui, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, l'invité, votre confrère journaliste a presque tout balayé mon idée. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que d'abord, les sociétés minières qui exploitent ici en République démocratique du Congo, excepté la Gécamines, je crois que toutes les sociétés minières sont, donc, ont des capitaux étrangers, donc ne nous appartient pas à nous, à nous les Congolais, donc à notre gouvernement. Alors, compte tenu de la loi du code minier, en son article 269, quelque chose que votre invité a souligné là, mmh. Les 40%, c'est vrai, ça doit revenir en République démocratique du Congo pour aider ce pays quand, mmh. par rapport aux devises.
Voilà.
Alors,
voilà.
Les 40%.
Oui,
là.
Merci beaucoup, Ridi. Merci beaucoup, Ridi, parce que là, finalement, vous revenez sur ce que les autres ont déjà dit. Maître Likonza, est-ce qu'il y a des opportunités que vous décelez par rapport à cette mesure? Maître Likonza.
Bien, merci beaucoup, JR. Je n'ai pas eu l'opportunité de suivre l'invité, mais je dirais que nous avons connu ce qu'on a appelé ici l'initiative pour la transparence des industries extractives. Avec le slogan « Déclarer ce que vous payez et déclarer ce que vous percevez ». Mais où sommes-nous depuis que l'ITIE a travaillé ici? Quels sont les effets positifs du travail de l'ITIE? Je sais que l'ITIE a bien fait son travail, mais l'impact de ce travail sur l'économie du pays, hein, c'est à quel niveau? Les autorités gouvernementales ont fait quoi du travail de l'ITIE pour qu'aujourd'hui on impose aux industriels miniers de rapatrier 40% de leurs recettes en exportation au pays? Mais moi, je crois que cette mesure-là, d'abord, elle est imprécise, elle n'est pas situé dans l'espace et dans le temps. Ça va prendre combien de temps? Quelles sont les mesures
Oui, maître Likonza, c'est vrai, vous nous avez pris en cours de cette émission. Notre invité parlait tout à l'heure d'une mesure de rappel qui constitue juste un rappel. Et c'est déjà dans la loi, la loi est claire, le législateur a déjà bien défini les limites même pour que fait un opérateur minier puisse déclarer. Et je lui ai même posé la question sur notre régime économique et déclaratif. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une occasion pour qu'il y ait la fraude? Donc tout ça, on l'avait balayé. Mais la grande question pertinente que vous avez posée, c'est cette campagne menée par l'ITIE, déclarer ce que vous payez, quel a été le résultat? Alors là, parce qu'il s'agit d'une préoccupation directe, je reviens à notre invité rapidement. ITIE, aujourd'hui d'ailleurs, on est à l'ITEA.
Voilà, il y a Rudy d'abord qui a posé une question depuis Lubumbashi. Je voudrais lui dire que les 100% des produits des ventes de minerais appartiennent à la société. Il faut que les choses soient claires. Les minerais exportés et vendus sur le marché international, c'est une propriété des sociétés minières. Bien sûr que l'État est actionnaire dans une certaine mesure, mais ces calculs se font par après. Et les 40% qui doivent être rapatriés, ce n'est pas une taxe, non. C'est l'argent des sociétés minières. Mais cet argent doit être logé dans des banques en République démocratique du Congo. C'est dans cet argent que les sociétés minières doivent payer, par exemple, les sous-traitants, doivent payer les taxes, d'autres dépenses. C'est pour alimenter l'économie nationale. Nous avons évoqué ici la loi de l'offre et de la demande. Lorsque vous avez suffisamment de devises en circulation, eh bien, vous ne pouvez pas assister à une descente aux enfers de notre devise nationale qui est le franc congolais. Mais lorsque vous avez une surliquidité de francs congolais en circulation et en face une offre en devise très maigre, eh bien, tout le monde étant à la recherche de dollars, eh bien, c'est tout le monde qui cherchera à acheter à n'importe quel prix et pouf, vous avez l'inflation. Donc ça, c'est une première précision que je voudrais donner à notre ami Ridi. Mais il y a aussi monsieur...
Maître Likonza.
L'ITIE ne fait pas le travail de contrôle de rapatriement. Non. L'ITIE est là pour surveiller tout ce que ces sociétés minières payent comme recette, comme taxe à l'État. La société X a payé combien à la DGDA? La société Y a payé combien à la DGI? La société Z a payé combien à la DGRAD? Est-ce que le montant que cette société a déclaré avoir payé est arrivé en intégralité au trésor public? C'est ça le travail de l'ITIE. L'ITIE n'a pas à dire que non, est-ce que vous avez rapatrié 40%? Non, ça c'est le travail de la Banque Centrale, ça c'est le travail du gouvernement.
Pour éviter le coulage des recettes.
Voilà.
Alors, l'Itoya, aujourd'hui, Itoya.
Bon, vous savez, ça aussi...
Parce que donc, finalement, on
ça,
évolue
c'est juste
termes
pour
termes.
La traçabilité. C'est pour la traçabilité parce qu'on a constaté que, au niveau de la République démocratique du Congo, nos minéraux sortent, nos frontières étant poreuses, vous trouvez par exemple le pays comme le Rwanda, qui est qui déclare des quantités énormes, par exemple des colombo-tantalites, des coltans, sur le marché international, alors que le Rwanda, son sous-sol ne regorge pas de ces minéraux-là. C'est le minéraux qui sort par deux voies frauduleuses de la République démocratique du Congo et qui arrive de l'autre côté. Alors, c'est pour retracer, par exemple, l'or, on doit savoir que l'or a été exploité dans quel puits, à quelle date, c'est de quelle nature. Et c'est pour retracer et donner une identité à ces minéraux-là qui est en exportation qu'on a créé encore l'Itoya.
Voilà. Alors, moi, je me dis, c'est vrai, il y a quand même, il y a un auditeur qui l'avait dit en début de cette émission, c'est Rakhmet qui parlait quand même de cette société minière qui rapatrie toujours ces 40%. C'est vrai, il y a un problème de déclaration.
C'est faux.
Et combien ils déclarent sur ce qu'ils ont fait comme recette. Mais la grande question, mais c'est ces mêmes sociétés, ils sont surtaxés, ils sont surimposés.
Non, ne vous en faites pas. Vous savez, moi,
la problématique, c'est.
Je viens d'écrire cette mesure urgente pour relancer l'économie de la République démocratique du Congo dans cette crise. Vous savez, la pression fiscale n'est pas aussi forte. Vous comprenez?
En République démocratique du Congo, les livres de
professeurs. Non. Le problème, c'est que les sociétés minières profitent parfois de la faiblesse de l'absence d'une certaine expertise pointue de nos administrations pour gonfler les charges et payer moins. Et pourquoi? Je vais vous dire tout de suite. Parce que la loi dit, lorsque vous avez des pertes, eh bien, vous ne payez que 1% de votre chiffre d'affaires comme impôt sur le bénéfice. Par contre, si vous réalisez des bénéfices, vous déclarez les bénéfices, l'État prélève dans ces bénéfices-là 30%. Conséquence, qu'est-ce qui se passe? Sur la cinquantaine de sociétés minières qui exportent les minéraux de la République démocratique du Congo, vous n'avez que 3 ou 4 qui déclarent presque régulièrement des bénéfices. 47, 47...
Ils exportent en brut et parfois non, aussi des dérivés.
Déclarent des pertes depuis plus de 10 ans et elles ne ferment pas.
Parfois ils exportent de bruit,
c'est
parfois des
extrêmement grave, c'est de l'escroquerie et c'est parce que nous sommes naïfs. Notre administration est malade, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut parce que ce n'est pas de la faute de ces sociétés là. Et c'est ça qui fait que au jour d'aujourd'hui, l'État n'a pas suffisamment de réserves.
C'est moins de 1 milliard d'abord les réserves.
Donc on est à 700 millions aujourd'hui. Et nous partons de 1 milliard 750 millions. Donc les réserves d'échange se sont.
Est-ce que cela est dû parce que les gens
ont fondu comme neige au soleil?
Parce que est-ce qu'en grande partie la raison c'est
parce
que.
En partie oui, mais il y a aussi, vous savez, l'économie d'un pays repose sur deux politiques. Vous avez la politique budgétaire qui est c'est le levier principal qui est managé par le ministre de Finances, le ministre du Budget et qui s'occupe de la mobilisation des recettes. Mais il y a aussi la politique monétaire qui est managé, ce levier là est managé par la Banque centrale qui s'occupe de contrôle des prix intérieurs, mais également de la santé de la monnaie et qui s'occupe de la gestion des banques centrales. Et lorsque ces deux politiques là ne sont pas prudentes face à des chocs exogènes, vous avez les désordres que nous vivons. Vous avez, bien sûr, l'inflation qui est entretenue par notre incapacité à pouvoir mettre
Merci
sur
beaucoup.
Pied, à pouvoir exécuter les textes.
Merci beaucoup, Jérôme. Alors, je crois que là, ici, même de mentionner les livres publiés par le sénateur Mokunda Bonza, qui, en fait, a donné quelques pistes de solutions. Je recommande d'ailleurs aux uns aux autres d'aller lire ces documents qui est scientifiquement vraiment au point par rapport à toutes ces pistes de solutions pour arriver à réguler un peu la crise économique. économique que nous traversons, et notamment en ce qui concerne les pressions sur la pression fiscale par rapport aux sociétés minières. Voilà, donc on va y revenir, mais il est temps peut-être de balayer encore les autres auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre à ce niveau du débat. Maître Bintou est à Kimpese, Timothée à Kananga, Maître Gaston à Kinshasa. 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous entamons le dernier quart d'heure de cette émission et nous allons faire également des propositions sur les opportunités et pourquoi pas des menaces à améliorer. Maître Bintou, vous êtes à Kimpese, bonjour et bienvenue.
Bonjour Julien, je ne suis pas maître malheureusement.
C'est docteur Bintou.
Ok, je ne suis pas maître, ok.
Merci docteur.
Julien, merci beaucoup pour la parole, merci à tous les intervenants et tous les auditeurs de la Radio Capi. Moi, mon point de vue sur cette mesure, d'abord, c'est une bonne mesure, malheureusement, qui semble être dotée d'une dose politique, puisque c'est une mesure qui vient a posteriori, avec un retard. Or, malheureusement, ces contrats-là sont négociés en avance, avant que les sociétés-là ne s'installent, ils ne sont pas congolaises, que ces sociétés-là sont obligées d'appeler, de respecter. Nous négocions très mal nos contrats, et une fois les sociétés installées, et nous nous rappelons qu'il fallait faire ceci dans une grande difficulté. Nous sentons que le pouvoir a des difficultés d'avoir de l'argent, et pour qu'il ait de l'argent, il faut demander à ces sociétés minières de rapatrier de l'argent. Mais je voudrais que cela ne s'arrête pas seulement aux sociétés minières, que toutes les sociétés installées à la République du Congo puisse aussi être soumise à une loi afin que le Congo puisse avoir l'argent. Bon, en plus de cela, mais je voudrais savoir aussi si les sanctions qui ont été prévues par le ministre pour les gens qui ne vont pas respecter cette mesure-là, s'ils ne respectent pas, va advenir, est-ce que, puisqu'il dispose de la grande...
Voilà, je crois que le législateur avait déjà travaillé sur ça.
Il y a un contrat de 10-25 ans. Le troisième problème que je voulais dire, M. Gilles, c'est sur le plan de la monnaie congolaise. La monnaie congolaise a un problème de crise de confiance vis-à-vis de la population et même vis-à-vis des autorités. Si les autorités elles-mêmes ramènent tous leurs avoirs en devise en République démocratique du Congo, je pense que nos banques congolaises ne pourront pas manquer de l'argent. On commence d'abord puisque commencer d'abord par donner un bon exemple et la population va suivre. Et le troisième petit problème, c'est la meilleure solution pour qu'on puisse relever l'économie congolaise, c'est de stabiliser le pays et la politique. Lorsque le pays n'a pas de stabilité politique,
Merci. Ça a un impact négatif. Merci beaucoup, Dr Bintou, d'avoir appelé l'équipe PC. Timothée, vous êtes à Kananga, bonjour et bienvenue. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour qu'on puisse réellement arrêter cette hémorragie de la dégradation de l'économie du pays qui commence à prendre un peu des allures très inquiétantes, Timothée?
Oui, merci beaucoup. Moi, je propose aussi que toutes ces mesures sont constructives et conservatrices. Alors, tout cela devrait être prédéfini dans les clauses des contrats que l'État congolais est en train de signer avec ces sociétés étrangères dans les secteurs miniers. Parce qu'on se rend compte que l'État congolais a toujours fait des fautes, c'était après qu'il vient se retrouver pour dire non, on avait commis une erreur, alors il faut arranger. Moi, j'espère que ces mesures soient d'application cette année ou bien soient exécutées, parce que ces sociétés peuvent aussi avancer l'argument selon lequel ils n'ont pas été avisés bien avant la conclusion des contrats. C'est pourquoi nous aimerions à ce que les clauses des contrats des
En amont, que cela soit déjà discuté, mais le code minier est clair là-dessus.
Pour que les parties sachent ce qu'ils devront faire.
Merci beaucoup, Timothée. Alors, Maître Gaston nous a également rejoint. Maître Gaston, bonjour.
Bonjour, JR. Je vous salue aussi. Oui.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat? La solution pour arriver à améliorer la situation économique du pays?
Bon, j'allais dire qu'il faut d'abord encourager l'investissement, que ce soit les sociétés étrangères ou congolaises qui œuvrent dans ce secteur-là, il faut les encourager. Je pense qu'il y a des textes en vigueur qui réglementent vraiment ce secteur-là, et ces textes-là sont riches, à mon avis, qu'il faut nécessairement appliquer cette fois-ci à la lettre pour voir l'évolution dans ce domaine-là. Mais je pense que l'État, à mon avis, devrait plus s'appuyer vraiment sur la production nationale. Il devrait d'abord savoir parmi ces sociétés-là, parmi ces sociétés qui œuvrent dans le secteur, est-ce qu'il y a-t-il vraiment des sociétés congolaises? Si ce sont des sociétés étrangères qui ont des établissements permanents ici, ils n'ont qu'à se conformer à la loi, au texte qui régisse. Mmh. Et puis l'administration congolaise, à mon avis, c'est là où pose problème. Nous avons les textes qui réglementent ces domaines-là, mais l'administration est animée par voilà. Les personnes qui sont...
Donc il faut commencer à améliorer l'administration
qui
fiscale.
L'intérêt pour les
Merci.
L'intérêt.
Merci beaucoup Gaston, on a compris l'essentiel de votre idée. Le temps de revenir à vous, notre invité, peut-être la réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre, mais au moins une préoccupation, parce que lorsque le gouvernement Matata 2, avant de sortir, évoquait les raisons qui ont fait que nous assistons à cette dégradation de notre économie, on évoquait la baisse du cours mondial au niveau...
Oui, 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 voilà, mais aujourd'hui les choses ont changé.
Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pratiquement...
Non, le cuivre est presque oui. à 6 000 dollars la tonne métrique, mm-hmm. Et le cobalt est à 53 000 dollars la tonne.
Mais comment se fait-il que nous restons toujours...
Le problème...
On fait du surplace, on dirait.
Non, le problème, c'est un problème de gouvernance. Il faut reconnaître ici que, bon, les cours ont repris quand même de l'ascenseur, et nous continuons à produire au-delà d'un million. On aurait dû produire même 2 millions de tonnes de cuivre, mais il y a une faille importante, c'est l'énergie électrique. La SNEL est incapable de donner l'énergie, la quantité d'énergie qu'il faut à nos sociétés minières pour qu'elles puissent vraiment produire comme il se doit. Vous avez posé une question ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter la loi dans toute sa quintessence. Les textes sont là. Et même quand on va réviser notre code minier, je ne pense pas qu'on puisse changer ces dispositions-là. Mm-hmm. Ce sont des dispositions qui sont indispensables pour enflouer les trésors publics. Et d'ailleurs, ces dispositions sont un peu légères par rapport à d'autres pays. Et je voudrais ici signaler, parce que il y a certains responsables des sociétés minières qui brandissent une ordonnance, loi signée par le chef de l'État en 2012, mm-hmm. Et qui était prise et qui atténue un peu la teneur de l'article 269 et 271. Eh bien, je dois être clair avec vous et la réponse à cette préoccupation est la suivante. Lorsqu'une ordonnance loi, soit-elle signée par le chef de l'État, n'est pas ratifiée au niveau du Parlement, eh bien, cette ordonnance-là n'a pas de valeur juridique par rapport à un code minier qui est une loi voté au Parlement et promulgué par le chef de l'État. C'est pour cette raison que j'ai dit ici que les dispositions des articles 269 et 271 restent intactes et sont d'application et ne doivent souffrir d'aucune tergiversation.
Il réagissait par rapport aux plaintes des différents opérateurs miniers qui sentaient une pression fiscale et aussi par plusieurs fois la conférence économique a mentionné clairement que au fait toutes les recettes minières n'avaient aucun impact sur l'économie.
Non,
et raison pour laquelle il y a eu cette ordonnance.
Il y a à boire et à manger dans ces histoires-là. Vous savez, toutes ces sociétés se plaignent, d'accord, elles peuvent avoir raison sur certains points, mais quand elles déclarent des pertes et elles ne ferment pas, aucune société minière au monde ne peut continuer à exploiter une mine 10 ans durant si elle ne fait pas de bénéfices. Donc c'est nous qui sommes dupes, c'est l'administration qui a failli. Et si ces sociétés réellement elles étaient en face de difficultés et elles connaissaient des pertes, elles devraient fermer. Et comme elle ne ferme
Si nous prenons par exemple le cas de la DGDA aujourd'hui, à la fin de l'année par exemple 2016, qui a déclaré avoir atteint les assignations et du moins dans les secteurs de contrôle au niveau des mines, ils ont pu réaliser quand même des exploits, des performances. Est-ce que, bon, je ne sais pas, au niveau de Lubumbashi, il y a eu un peu de baisse par rapport au Bakongo, mais au niveau de Lubumbashi, il y a 2-3 ans passés, on sentait quand même qu'il y avait une hausse au niveau de la DGDA, donc les contrôles étaient quand même bien faits.
Bon, vous savez, à l'exportation, tous ces minéraux ne payent rien. Je vous informe, ne payent rien. Donc, c'est à l'importation où la DGDA profite de quelque chose, notamment la TVA. Et la TVA a été suspendue. Vous savez que l'État doit aujourd'hui, au titre de la TVA remboursable, 800 milliards de francs congolais. Ce qui fait que même dans, en ce qui concerne la perception de la TVA, il y a à boire et à manger. Donc, il y a un problème sérieux. Voilà pourquoi... nous, on a suggéré avec notre équipe.
Alors, les 7 mesures, on va y revenir. Il est temps de prendre Maître Sonville et Sinclair, et puis on revient à cette mesure que vous préconisez comme solution. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, M. Gir, bonjour à notre invité, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui,
les solutions
comme
à proposer.
C'est légal. Il y a l'article 269 qui le prévoit. Et les sociétés minières n'ont qu'à s'obtempérer à cette décision-là. Mais il se pose un problème. Parce que si cette question a été suscitée, c'est suite à l'hémorragie de notre monnaie locale. C'est pour sauver cette hémorragie. Mais il se pose un problème par rapport à nos banques. Est-ce que les investisseurs font confiance à nos banques lorsqu'ils vont loger cet argent? Lorsqu'ils en auront besoin, ils auront la possibilité de récupérer cet argent, de retirer l'argent pour orienter ça à des fins qui sont utiles par rapport à leurs préoccupations. C'est là où se pose le problème.
Merci beaucoup, Zobil, parce que nous avons assisté à la fermeture de deux banques déjà. Jusque-là, il y a Biak qui a connu des difficultés au niveau de la trésorerie à Freeland. C'est pareil. Donc, on sait pas. À une certaine époque, il y a deux ans même, nous avons fait une émission, toujours dans le cadre de Paroles aux auditeurs. Nous avons annoncé même la difficulté des trésoreries des différentes banques. Bon, je crois que cette situation est arrivée trois ans après. Nous avons eu même des difficultés au niveau de la Banque centrale qui ne voulait pas croire à cette prophétie qui a été annoncée par certains des analystes autour de ce débat, mais voilà, on y est. Merci beaucoup, Maître Sonville. Saint-Clair, vous êtes en Boujimaï. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, JR. Merci beaucoup.
En une minute, quelle est la solution que vous préconisez pour qu'on finalement on arrive à améliorer la situation de notre économie et surtout dans le secteur de l'économie de mines qui doivent normalement participer à un grand pourcentage dans l'économie nationale?
Oui, mon frère, moi je pense que la solution, c'est peut-être ce que l'invité a essayé de dire, c'est que nous devons quitter donc le niveau où nous sommes beaucoup plus des importeurs que des exporteurs. Ça, c'est très important. On doit nécessairement produire ce passe. Même si ces 40% s'est retrouvé chez nous ici, vous n'allez pas imposer à ces sociétés de faire des dépenses dont les besoins ne se retrouvent pas nécessairement au pays. Et puis, parce que la solution est peut-être trouver la solution au problème de tension monétaire que nous avons. Moi, je pense qu'on doit produire sur place pour permettre à ces 40%. J'ai l'exemple des États-Unis. Je pense qu'une mesure pareille ne peut pas exister. Parce que ces sociétés se retrouvent obligées de payer les histoires sur place. Ils ne veulent pas aller chercher ailleurs.
Merci beaucoup, c'est clair. Dommage, on ne sait pas aller plus loin avec vous.
De créer des sociétés,
voilà.
Des
grandes sociétés. Je crois que voilà, on ne sait pas aller plus loin avec vous parce que le temps nous impartit fait défaut. Deux minutes pour notre invité. Pour conclure cette émission, qu'est-ce qu'on doit faire de cette mesure que vous proposez?
Bon, avant de dire, parce que je ne saurais pas les énumérer, mais je voudrais appuyer ce que venaient de dire nos auditeurs en ce qui concerne la production. C'est vraiment important pour que nous puissions avoir une offre en devise assez importante. Nous devons produire et peut-être essayer. Donc, je venais de donner un chiffre ici, 1,5 milliard de dollars que nous dépensons pour acheter les vivres. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables en République démocratique du Congo, dont seulement 10% sont mises en valeur. Donc, le secteur agricole, c'est un secteur porteur de croissance. C'est là où on doit investir. La diversification des sources de financement de notre économie devrait passer par là. Et nous étions un peu distraits avec la croissance que nous avons enregistrée pendant les 3-4 dernières années. On devrait y penser, mais mieux vaut tard que jamais.
Les projets zones économiques.
Voilà, il faut nécessairement. Alors, peut-être vous m'inviterez un autre jour pour que je vous explique les 7 mesures. Je prends une seule mesure, un seul exemple. Et nous avons, vous savez, dans notre pays, nous avons plus ou moins 75 millions d'habitants, d'autre part les 80 millions. Et si je vous disais qu'il n'y a que 500 000 personnes physiques et morales confondues qui sont en ordre avec le fisc et qui payent les impôts. Ce qui est grave. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'informel brasse des milliards de dollars américains, des milliards de francs congolais, qui ne sont pas captés, qui ne sont pas imposés par l'administration fiscale. La première réforme et la plus importante, c'est celle d'imposer l'identifiant fiscal unique, le numéro impôt. Et il faut 10 millions de dollars qu'on doit mettre à la disposition de la DGI. Le gouvernement vient de recevoir un don de 50 millions de dollars de la Banque mondiale. Il faut défalquer 10 millions pour exécuter cette réforme. Ainsi, on aura automatiquement une assiette fiscale qui va s'élargir et les recettes vont automatiquement augmenter parce que nous continuons à mobiliser moins de 4 milliards de dollars américains par an à cause de l'insuffisance qu'on trouve au sein de notre administration pour imposer. L'État doit faire de son mieux pour essayer d'élargir l'assiette fiscale, d'essayer d'imposer tout le monde. et intégrer dans le formel tout ce qui opère dans l'informel.
Jérôme Sekana, journaliste et spécialiste à questions économiques, merci d'avoir été de nôtre et surtout d'avoir accepté d'échanger de manière citoyenne avec les auditeurs ici au pays et à l'étranger. À très bientôt d'ailleurs pour une autre invitation. Merci à toute l'équipe qui a écrit et concouru à la production de cette émission. Je pense à Piro Elameji, à Dieudonné Niangasa et à Nico Okalambay. Cette émission vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.